Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 18 avril 96.
N'exprime plus du tout sa conscience. raison, ça peut arriver. Alors quand il n'y a aucun espoir, on n'est pas tenu du tout de l'acharnement médical n'est pas une obligation. Pour les médecins, ça pose des problèmes, je comprends très bien. Bon, il faut regarder ça. Quelle est la finalité de la vie quelle est la finalité de la procréation dans la vie? Pour la vie végétative, comme vie végétative, oui, mais comme la vie végétative chez l'homme est ordonnée à une vie sensible et ordonnée à une vie spirituelle, au fond, au sens strict, la vie végétative chez l'homme peut dépasser sa fin propre. Et elle a donc une certaine liberté, l'homme a une certaine liberté par rapport à cette fin. Thank you. pas le point de vue moral. C'est important de distinguer la philosophie du vivant est une connaissance spéculative. Donc je constate que l'effet de l'union de l'homme et de la femme peut être en vue de la procréation. Peut-être en raison du non-consentement d'un des conjoints, donc de l'épouse, de la femme. À ce moment-là, on peut dire que cet acte est un acte de violence. Il produit les mêmes effets. Peut-on pousser plus loin et dire que, au point de vue de la philosophie du vivant, que de fait, la procréation se réalise grâce à une intervention médicale, donc grâce à une intervention d'instruments, et que l'effet a lieu. On le constate. C'est intéressant de voir que le point de vue de la fécondité n'est pas lié directement à l'amour. Puisque s'il y a violation, acte violent, la fécondité peut exister. S'il y a intervention médicale, intervention artistique, disons, parce que je ne sais pas jusqu'où c'est médical, mais intervention artistique d'instruments, et non pas la volonté de l'individu. Ce que je crois capital aujourd'hui à comprendre. Et les faits sont là. C'est donc ce que Aristote avait dit, que la vis generativa est une puissance au-delà de l'individu et qui relève de l'espèce. Si elle dépendait de l'individu, tout acte violent n'aurait pas d'effet. Parce qu'il n'y aurait pas le consentement de l'individu. Or, il y a un effet. Si ça dépendait de l'individu d'une manière déterminée, on ne pourrait pas avoir une fécondation in vitro. C'est que on puise des forces qui sont au-delà de l'individu par la vis generativa et qui relèvent de l'espèce. C'est toute la distinction entre l'assimilation de l'aliment dans la vie végétative qui relève l'individu. Je sais qu'on pourra dire qu'aujourd'hui on peut alimenter quelqu'un artificiellement. Quelqu'un qui est dans le coma, on peut l'alimenter artificiellement. Ce qui montre aussi que la vie végétative dans la nutrition est au-delà de l'individu, qu'elle est attachée à l'espèce. Et cependant, elle se termine à l'individu, tandis que dans la vis generativa, les deux différents sont unis par un troisième, l'espèce humaine. Et qui est la source d'un être nouveau. Je crois qu'il est bon de rappeler ça. d'un développement spirituel. Analogue à celui du père et de la mère. Ce qui fait que la procréation, au point de vue humain, est toute différente de la procréation de l'animal. Je dis bien toute différente, c'est-à-dire analogue, au point de vue philosophique. Pourquoi ? Parce que le terme de la procréation, au point de vue humain, c'est un être humain, c'est-à-dire un être capable d'avoir un développement spirituel, d'intelligence et de volonté. Capable de distinguer très vite dans l'enfant ces trois degrés de vie. La vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle. Ce qui fait que le fruit de la gestation du côté du petit, de l'homme, est totalement différent de celui de la génération d'un animal et des animaux les plus proches au niveau vie végétative de l'homme. Je souligne ça parce que certains monos, entre autres, disent « c'est semblable ». Or, ce n'est pas semblable au point de vue philosophique. Et vous comprenez tout de suite. Puisque c'est le terme d'un mouvement qui donne la qualité de ce mouvement. Or, le terme de ce mouvement, c'est un être humain. Tandis que le terme de la génération d'un animal, c'est un animal. On n'a jamais constaté un animal donnant un être distinct, spécifiquement, de sa source. On n'a jamais constaté qu'un animal, si parfait qu'il soit, puisse avoir comme fruit un être humain. On ne l'a jamais constaté. Si je prends rigoureusement l'expérience, on s'est posé des tas de questions en fonction des squelettes qu'on a redécouverts. Sont-ils des êtres humains? Sont-ils pas des êtres humains? À quel moment l'être humain apparaît? On sait très bien qu'on a dans ces questions-là uniquement des opinions. C'est pour ça que chaque fois qu'on découvre un nouveau crâne, l'opinion et la théorie précédente doivent être transformées. Mais c'est le grave problème de l'évolution. Mais au sens strict, ça ne regarde pas la philosophie du vivant. Parce que la philosophie du vivant est basée sur l'expérience immédiate. La question se pose alors pour le philosophe. Si c'est un être humain, c'est un être qui a donc une âme humaine. Et une âme spirituelle. Puisque je distingue dans l'homme et dans la vie humaine les trois degrés. Et que je peux les retrouver dans le petit enfant, dans son développement. Il a donc une âme spirituelle. Cette âme spirituelle, d'où vient-elle? Au plan philosophique, je me pose la question et je dois me la poser. Ne pas se la poser, c'est éviter un problème. Or, on doit chercher la vérité le plus loin qu'on peut. Donc, source, c'est marrant. Trois niveaux de vie. Dans l'unité, ce qu'on a vu lorsqu'on a induit l'âme, ben, puisqu'on l'a induit l'âme d'un être parfait, on voit que ce petit être, même s'il est encore très enfoui dans une vie végétative une fois qu'il est né, il a cependant dans son développement ces trois degrés de vie. Et donc je dois me poser la question, le degré de vie d'âme spirituelle qui assume les deux autres degrés, cette âme spirituelle, d'où vient-elle? Quelle est son origine?
Se développer en dehors.
philosophique. Parce que ça montre la causalité matérielle de cette vis generativa de la mer qui joue un rôle déterminant pour le développement de l'embryon. Donc, c'est comme une causalité analogique, puisque le problème de la causalité univoque, c'est justement de pouvoir être remplacé par autre chose. Tandis que la causalité analogique, elle agit toujours dans toute la croissance. Il arrive un moment où, de fait, l'embryon est suffisamment développé pour pouvoir continuer de vivre en dehors du milieu maternel. Ça, on peut le constater scientifiquement. Et le philosophe se trouve devant des faits devant lesquels il doit réfléchir. Ils sont quelque chose d'extrêmement intéressant, du reste, pour préciser combien la mère, le milieu maternel, est indispensable à la croissance de l'embryon. On n'est pas arrivé à le remplacer. On a essayé, on voudrait bien, on n'est pas arrivé. On est devant quelque chose qui s'impose. Si le philosophe constate que l'âme spirituelle vraiment vient du dehors, Aristote le disait déjà, hein, en pur philosophe, alors ne disons pas du tout, je dis ça en tant que chrétien, non, non, en tant que philosophe. Et son raisonnement est simple, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure. La cause contient toujours, n'est-ce pas, en acte, ce qui sera dans les faits. Alors, il faudrait que la vis generativa puisse être cause de quelque chose de purement spirituel. Ce qui semble impossible. Elle est cause de la matière, mais pas, et d'une certaine manière de la forme, mais pas pleinement. Alors, peut-on préciser philosophiquement à quel moment l'intervention d'une autre cause extérieure a lieu? On n'appelle pas encore Dieu, puisque l'hypothèse fondamentale, c'est celui qui n'a pas encore découvert Dieu. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas préciser d'une manière absolument nette et précise à quel moment se fait cette intervention. L'avion essayait de déterminer l'année dernière, alors d'un point de vue moral, ici au point de vue purement philosophie du vivant, je dis je crois qu'on ne peut pas. Il semblait qu'il y avait un signe au moment où l'embryon peut avoir une certaine autonomie par rapport au sang, étant donné que l'âme est dans le sang. Selon la tradition juive. Et on ne peut pas, je crois, aller plus loin et certifier de façon absolue. Donc, il reste là, pour le philosophe, un mystère que, honnêtement, s'il réfléchit au point de vue philosophique, il est obligé d'accepter. Ok, ça pourrait être une preuve de l'existence de Dieu. Parce que cet autre qui est source de l'âme ne pourrait pas être un ange. Puisque c'est la création d'une âme substantielle. Donc c'est la création d'un être nouveau. Et donc, la naissance. Aujourd'hui, au point de vue du développement de l'embryon, ne nous donne pas de principe nouveau. Donc, le philosophe constate, mais négativement, le philosophe, en face de ce que dit le savant, peut dire qu'il y a intervention d'un être autre que les parents. Et que cette intervention, je ne peux pas la préciser. Le Saint-Père, dans son encyclique sur l'évangile de la vie, le Saint-Père reconnaît qu'au plan philosophique, on ne peut pas préciser. Mais on doit affirmer que c'est un être vivant, que c'est un être humain, je veux dire. On doit l'affirmer en raison du terme. Comme ce mouvement, comme cette croissance a une unité substantielle, c'est son terme qui la détermine. Et donc interrompre le développement normal de l'embryon, c'est tuer un homme. C'est tuer un être humain. Disons un être humain, c'est mieux. C'est tuer un être humain. Et donc, tuer un être humain, c'est un homicide. Parce que je peux constater ça au point de vue philosophique. Que si l'homme et la femme sont source de l'apparition d'un être nouveau et source qu'il y a là quelque chose qui dépasse le pouvoir de l'homme puisqu'il n'en est pas la source. Si la vie se générativa et était capable d'expliquer entièrement le fruit, l'être humain, on pourrait se poser la question dans quelle mesure l'homme est-il, a-t-il un pouvoir, une autorité et un pouvoir sur cet être embryonnaire. Mais puisqu'on constate qu'il y a intervention d'une cause autre, il y a donc une alliance avec quelqu'un d'autre.